La Société d'assurance auto du Québec a annoncé ce matin qu'elle ne pouvait pas servir ses clients aujourd'hui, ni chez les mandataires, ni dans les points de service, ni même en ligne, parce qu'elle a comme raté la mise à jour de ses services informatiques cette nuit. Et normalement, tout devait reprendre à 14 heures. Dernier tweet de la Société d'assurance auto du Québec, ça ne reprendra pas du tout aujourd'hui. Et on ne dit pas quand est-ce que ça va reprendre, et on ne dit pas pourquoi ça prend tant de temps.
Qu'on sache pas pourquoi, ça, je trouve ça un peu louche.
Écoute, la dernière fois qu'on a eu un incident de ce genre-là, rappelle-toi, c'était le RTC.
Oui.
Et ils avaient été piratés. Mais on n'en sait rien parce qu'ils le disent pas. Ils disent pas le contraire non plus, d'ailleurs.
Là, en sachant ça, que les services reprennent pas aujourd'hui, là, les employés, ils retournent chez eux?
J'ai aucune idée. Là, on va les contacter, là, parce que ça commence à... Tu sais, un bug informatique qui dure 4-5 heures, c'est déjà énorme dans une institution de cette envergure-là. Mais un bug informatique qui te stalle pendant une journée complète et où tu n'es pas capable, dans le communiqué, de garantir que ça reprend le lendemain, ça recèle quelque chose d'autre.
C'est pas un petit bug.
Quelque chose. On a au téléphone Geneviève Guilbeault. On avait rendez-vous avec elle vendredi passé, mais je pense qu'elle s'est laissée surprendre par certaines inondations. Bonjour, Mme Guilbeault.
Bonjour, Mme Segal.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Oui, bien vous, vous avez l'air fatiguée.
Moi?
Ben, dans votre voix, là, je sens une...
Ah, non, ben c'est que je riais, je ricanais dans ma barbe compte tenu de votre introduction quand vous disiez, je pense que c'est laissé prendre dans quelques inondations, effectivement. c'est pas par manque de volonté que j'étais pas des vôtres, mais bien non. Parce que j'ai été accaparée par la gestion de cette situation malheureuse des sinistres au Québec.
Il y a des drames humains qui se jouent actuellement. J'ai sous les yeux là un message désespéré d'une femme dont les parents sont handicapés, qui est dans sa maison de Sainte-Marie, qui doit tout sortir tout seul, qui a pas d'aide de l'armée parce que c'est pas le mandat de l'armée, qui a pas d'aide de la ville parce que c'est pas le mandat de la ville, qui a pas d'aide de la Croix-Rouge parce que c'est pas le mandat de la Croix-Rouge de sortir ses meubles, puis qui est complètement désespérée. Des scènes comme ça, vous avez dû en voir tout autour du Québec.
Il y a des situations déchirantes partout, oui, effectivement, surtout évidemment les secteurs les plus inondés là. Donc j'étais en Beauce, moi, hier, et on a fait le tour de Sainte-Marie, principalement du centre-ville là, de Sainte-Marie, qui a été très très touché par les inondations. Et c'est désolant, moi, ce que j'ai vu là-bas. Il y a une dame qui a eu la gentillesse de nous laisser entrer dans sa maison, et on a vu là, le matelas qui était surélevé à une hauteur assez impressionnante et qui nous indiquait justement le niveau qu'avait atteint l'eau dans sa maison. Une dame qui a 6 enfants, donc ils sont 8 dans la maison. Et là, il faut se reloger, il faut reconstruire, ou en tout cas assainir, nettoyer, replacer, tout ça. Donc oui, il y a plusieurs situations comme ça un petit peu partout. Heureusement, on a beaucoup de ressources. La situation que vous me décrivez, honnêtement, ça me surprend un petit peu, là, parce que d'habitude, les municipalités, nos équipes en soutien, les forces policières, les pompiers, tout ça, sont en mesure d'aider les gens, surtout les gens vulnérables qui n'ont pas la possibilité là, de sortir par eux-mêmes ou de sortir leur matériel par eux-mêmes. C'est sûr qu'il y a certaines limites dans le soutien qu'on peut offrir pour chacun individuel, mais j'espère que cette dame-là a fait appel aux gens de sa municipalité, parce que normalement, on ne laisse pas des gens vulnérables dans des situations qui peuvent les exposer à des risques ou les empêcher là, de pouvoir poursuivre leur vie dans un lieu plus approprié le temps du retour à la normale ou en tout cas du rétablissement.
En ce qui concerne la Beauce, ce sont des inondations historiques, dit-on, sauf que j'ai retrouvé des articles qui ont été écrits dans les années 90, 2000, etc., où on retrace que des inondations historiques comme ça, il y en a depuis 1917, et que ça fait depuis 1917 que des ingénieurs disent « il faut déplacer les citoyens ». Là, votre gouvernement a l'air de dire « OK, on va donner de l'argent à ceux qui acceptent de quitter les lieux, de détruire leur maison, puis de s'en aller dans une zone non inondable ». Comment ça va marcher, votre système?
Mais c'est une nouvelle mesure, effectivement, dans notre nouveau programme d'ailleurs, un programme qui, dont l'essence même vise à simplifier la vie du monde, à réduire la bureaucratie, puis à faire en sorte que les gens puissent retourner plus vite à une vie, disons, normale, là, aussi normale que possible, parce qu'il y en a qui ont des conséquences autres que financières seulement. Mais cette mesure dont vous parlez, qui est liée aux inondations successives, effectivement, c'est une nouveauté au Québec d'avoir une mesure expressément prévue pour ça dans un programme d'indemnisation. Et cette mesure consiste à dire, à partir du moment où l'aide financière gouvernementale que tu reçois cumulée totalise soit 50% du coût neuf de ta résidence ou 100 000 $ au maximum, bien là, on t'offre deux choix. soit tu prends un dernier chèque du gouvernement et on te dit, si tu veux rester dans cette maison-là en zone inondable, on ne te dédommage plus. Alors, la personne assume les conséquences pour l'avenir. Ou tu te relocalises dans une zone non inondable et là, le gouvernement va t'accompagner à la fois sur le plan humain et sur le plan financier. Donc, il y a possibilité soit, comme vous dites, de démolir la maison et d'aller carrément emménager dans une nouvelle maison ailleurs. Si c'est possible de déplacer la maison ailleurs, on peut le faire aussi. Ou d'immuniser la maison. Dans certains cas, on peut immuniser la maison, donc élever, par exemple, là, la maison suffisamment pour que les risques d'inondation soient minimes ou inexistants pour l'avenir. Ouais. Donc, quand c'est possible, on peut faire ça aussi.
Sauf qu'on a vu à Sainte-Marie des maisons qu'on pensait avoir immunisées. Elles étaient hydrofuges. Elles se sont mises à flotter et à se déplacer.
Oui, à Sainte-Marie, effectivement, c'est incroyable ce qu'on a vu là. Il y a une maison où la poussée d'eau a littéralement sorti la maison de terre. Bon, alors oui, effectivement, on peut pas se prémunir contre tout ce qui va arriver dans l'avenir. Parce qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais anticipé ce qui est arrivé en 2017. Rappelez-vous, 2017, là, ouais, ça a traumatisé tout le Québec. Mais quand même, d'avoir cette nouvelle approche au Québec, de dire en toute lucidité, on est conscient que des gens sont dans des zones inondables, sont inondés à répétition, pour eux-mêmes au premier chef, là, pour leur bien-être, pour leur sécurité, pour leur paix d'esprit, ça peut être une mesure qui est très accommodante de dire on va vous accompagner pour aller vivre ailleurs puis avoir la paix de ces inondations-là. Mettez-vous à la place là, de quelqu'un, ça fait 10 ans qu'il est inondé presque à chaque année. Imaginez que ça peut être soulageant pour cette personne-là de pouvoir se relocaliser ailleurs. Donc, quelqu'un je pense que dans une optique de développement durable, c'est une bonne mesure à avoir.
Quelqu'un qui vous dit dès cette année, regarde là, donnez-moi tel montant, puis je m'en vais avec ma maison, je démolis la maison, puis je m'en vais ailleurs. Est-ce qu'il doit forcément avoir d'abord reçu 100 000 $ de dédommagement pour de reconstruction, ou il pourrait, dès la première année où il est inondé, dire « garde, go, je m'en vais ».
Et la mesure prévoit que c'est soit quand on atteint 100 000 $ ou 50 % du coût neuf de la maison. Ça, faut pas oublier, il y a les deux options. Ouais. Donc, il y a des maisons qui sont maintenant dans des secteurs, des maisons qui ont été inondées à répétition déjà dans le passé. Là, tu sais, la valeur peut-être est beaucoup moindre qu'elle pourrait l'avoir été dans le passé. Donc, par exemple, une maison qui pourrait être évaluée à 80 000, 50 % de ce coût-là, c'est 40 000. Et la personne peut arriver rapidement aux 40 000. Donc, cette mesure-là pourrait se présenter rapidement pour certaines personnes. Des gens pourraient, dès cette année ou l'année prochaine, peut-être s'en prévaloir parce que le calcul de l'aide financière cumulée commence cette année, à partir du moment de l'entrée en vigueur de la mesure. Donc, même si des gens ont touché de l'aide financière dans le passé, à ce stade-ci, ça ne compte pas. Par contre, moi, j'ai toujours dit que notre gouvernement allait faire preuve de gros bon sens et aller écouter les gens. Donc, on va y aller au cas par cas. S'il y a des cas où vraiment l'historique nous prouve que ça fait des années qu'il est inondé à répétition et que là, cette année, il serait obligé d'attendre encore 2 ou 3 autres fois pour dire « je vais prendre la mesure puis m'en aller ». Moi, j'ai dit à mon équipe, là, on est dans la phase d'intervention d'urgence, là, oui. Mais dans un deuxième temps, on se penchera sur cette réflexion-là. Est-ce qu'on peut, encore une fois, en tout gros bon sens, envisager d'accommoder certaines personnes dans des cas très précis d'inondations récurrentes depuis les dernières années? Okay. On verra.
Mais si on prenait un exemple concret, quelqu'un qui a une maison à 250 000, il va chercher son 100 000, tu sais, la moitié, ce serait 125, donc il y a maximum 100 000, et oui. Il dit, moi, je déménage maintenant. Vous me donnez le 200 qui est promis, le 200 ultime. Est-ce qu'il pourrait aller chercher un chèque de 300 000 pour sacrer son camp de là?
Non, ben ça fonctionne pas comme ça, en fait, parce que c'est sûr que la mesure, elle est pour une maison, elle est pour une situation où il y a des inondations successives. Oui. Donc, encore faut-il avoir la démonstration qu'il y a une succession d'inondations. Okay. C'est sûr que si dès cette année, là, il est inondé, puis il me dit tout de suite, donne-moi 300 000 plutôt que 200, parce que ça t'évite de te rendre dans le fond jusqu'à 100 000, puis tout ça. On n'a pas la preuve à ce stade-ci qu'il va être encore inondé l'année prochaine ou l'autre d'après. Surtout des gens qui vont être inondés une première fois cette année. Tu sais, il faut quand même démontrer la succession et la récurrence. Mais c'est ça, je disais qu'il y en a des cas qui existent, là. Entre autres à Beauceville. Il y en a des cas dont on sait très bien que ces gens-là ont été inondés plusieurs fois dans le passé. Et là, ils tombent à zéro, en fait, tu sais, avec la façon dont
si
la mesure fonctionne.
Il faut
qu'ils réaccumulent.
C'est comme si le compteur revenait à zéro, alors qu'eux autres, ils savent que ça fait 4-5 fois que ça leur arrive.
Exactement. Okay. C'est pour ça que je vous dis que des cas lourds, là, où on voit que, par exemple, c'est la 11e fois en 10 ans qu'il est inondé, Est-ce qu'on a encore besoin de démontrer la récurrence? Je suis pas certaine. Fait que, tu sais, c'est ça que je vous dis, puis je réfléchis là tout haut avec vous, en fait. C'est-à-dire que je partage avec vous une réflexion qui est déjà en cours dans ma tête depuis quelques jours et que j'ai déjà partagée avec mon équipe proche. La mesure va rester telle qu'elle est là, officiellement dans le programme, mais je veux que les gens sachent qu'on a d'abord, on est d'abord avant tout animé par le gros bon sens et qu'on sera à l'écoute de situations bien particulières ou exceptionnelles qui pourraient se présenter.
Comment vous allez endiguer la voracité récurrente des municipalités qui sont en partie responsables? On a vu des quartiers résidentiels ou des quartiers de villégiature de chalets qui étaient sur pilotis devenir tout à coup des quartiers où on met des maisons sur des solages, puis etc. Puis une municipalité, ça a bien de la misère à résister à un 3-4 000 $ de taxes annuelles. Puis ça donne des permis puis des dérogations dans zones inondables. Comment vous allez faire pour empêcher une municipalité de faire ça?
Oui, bien ça, c'est un bon enjeu que vous soulevez. Puis je vais vous dire, avec ce qu'on a eu en 2017, puis ce que je vois, moi, cette année, en 2019, j'ai fait le tour de plusieurs régions, là, un grand nombre de régions et de municipalités depuis une semaine, et j'ai souvent cette discussion-là avec les élus locaux. Puis je leur dis, vous voyez, là, des fois, comme hier, on faisait le tour à Sainte-Marie, il y a des maisons dont on voit sous réserve de l'avis des experts, mais à première vue, là, ça me paraît pas mal irrécupérable. Puis même si c'était récupérable, c'est évident, compte tenu de la proximité de la rivière, que l'année prochaine, puis les autres après, le risque de récurrence est très élevé. Fait que j'étais avec le maire, mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites des maisons comme ça? On en voyait une, entre autres, une maison assez cossue, là, d'une personne aisée qui s'est installée là sur le bord de l'eau parce que c'est beau. J'ai dit, j'imagine que vous allez interdire de se reconstruire à ces places-là. Puis il dit, oh oui, non, c'est fini, les constructions qui sont trop près de l'eau, puis il faut que cette mentalité-là se développe chez tous nos élus municipaux.
On dit ça à tous les 20 ans, madame. En 91, là, on avait les mêmes promesses de la part de la Beauce. En 91, ils ont eu une inondation du même type. On a eu les mêmes promesses. Résultat, on s'aperçoit qu'il y a un immeuble gouvernemental qui s'est construit en zone inondable, que le Tim Hortons puis le poste de gaz s'est construit en zone inondable.
Oui, bien c'est ça. C'est sûr que ça prend une sensibilité de tout le monde. Tu sais, la gestion des inondations, puis les actions en amont, puis cette perspective-là de développement durable, c'est pas uniquement au gouvernement de l'avoir. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec ce nouveau programme-là, on n'aura pas le droit de se construire. C'est-à-dire, si les gens se construisent dans des zones inondables connues, à partir du moment où on se parle, là, cette année, là, ils ne pourront plus se prévaloir de l'aide financière du gouvernement s'ils sont inondés. Okay. Donc ça amène...
Mais là,
aussi,
ça punit les gens, mais ça punit pas les municipalités
son lot
qui
de
vont
réflexion.
Continuer à donner des permis de construction à des promoteurs qui leur font miroiter quelques centaines de milliers de dollars de taxes.
C'est sûr que les responsabilités, les municipalités, c'est-à-dire une responsabilité, je suis bien d'accord avec vous, on n'a pas de pouvoir officiel de les empêcher de faire ça, mais j'ai l'impression que la conjoncture générale, le fait, comme je vous dis, que des gens qui se construisent sciemment dans des zones inondables connues ne pourront plus bénéficier de l'aide financière.
Ils font toujours avec un permis municipal.
Le discours ambiant fait en sorte qu'il y a une pression sur les municipalités pour arrêter d'autoriser des constructions dans des zones inondables.
Mais les gens qui sont construits, Mme Guilbeault, ils ont toujours eu un permis municipal pour le faire. Et c'est là que c'est traître, parce que la personne qui va demander son permis, si on lui dit oui, on te le donne, elle pense qu'elle est correcte. Comprenez-vous? La responsabilité,
non,
je me demande
je
si vous ne devriez
vous.
Pas menacer les municipalités de leur ôter, par exemple, la taxe de vente sur le pétrole, si jamais elles permettent des constructions en zone inondable.
Bien, on peut voir là les mesures de sanction ou de coercition qu'on pourrait mettre en place, mais à ce stade-ci, on n'en est pas là. On est plus dans une espèce de prise de conscience généralisée. Je vous le dis, j'en rencontre, moi, des maires depuis les derniers jours. Je n'ai rencontré des dizaines depuis une semaine. Et ils ont tous cette même conscience du fait que ça n'a plus sa place en 2019 d'autoriser des constructions, d'avoir des reconstructions dans les lieux où en ce moment des maisons sont très inondées et d'éventuelles constructions trop proches de l'eau. Les cours d'eau, les inondations, ça devient imprévisible, les changements climatiques et tout ça. Donc, c'est de ne rendre service à personne que d'autoriser des nouvelles constructions. Est-ce qu'il y en aura qui le feront? Sans doute. Mais voyons, on en parle là, ouvertement, publiquement, le discours ambiant qu'on entend. Je m'attends à ce que les élus municipaux prennent leurs responsabilités et contribuent à cet effort général au Québec d'éviter des constructions en zone inondable sciemment et d'adopter cette approche de développement durable où on dit d'abord aussi mettre à jour les zones inondables. Ça, c'est une autre chose. C'est un travail qui est en cours de la part des municipalités, des MRC. C'est leur responsabilité de faire ça. Donc, je m'attends à ce qu'ils le fassent et qu'on tienne compte de ces cartographies et qu'on évite d'autoriser des nouvelles constructions dans des zones inondables. Ça rend service à personne de toute façon. Puis oui, peut-être les taxes sont alléchantes à court terme, mais à moyen long terme, de toute façon, ça va amener des problèmes. Le citoyen va avoir des problèmes, puis de toute façon, il va être obligé de s'en aller avec la nouvelle mesure qu'on vient d'insérer. Fait que donc, marchons tous dans le même sens, allons tous dans la même direction, puis utilisons le gros bon sens d'abord et avant tout.
Est-ce qu'il y a, est-ce que le dossier de dédommagement est attaché à une résidence ou à un individu?
Vous voulez
attaché au propriétaire ou à la résidence en question? Parce que il est possible qu'un propriétaire vende une résidence inondable après avoir reçu de l'argent pour la réparer, puis ensuite aille dans une autre zone inondable, se trouve un autre petit coin de paradis, comprenez-vous? Puis que la même personne ait deux puis trois fois des dédommagements importants.
OK, oui, je comprends ce que vous voulez dire. A priori, la personne, effectivement, pourrait retoucher une indemnisation si elle emménage dans une nouvelle maison qui, elle aussi, est en zone inondable.
Ouais.
Mais honnêtement, ce genre de situation hypothétique, je m'attends à ce que ça n'arrive pas. Je vois pas pourquoi une maison qui traîne une maison. Je vois pourquoi une personne qui traîne une maison en zone inondable pour aller dans une autre, là.
Pensant qu'à cet endroit-là, voyons donc, c'est pas arrivé depuis 20 ans. Ça arrivera pas. C'est tellement beau. Puis, tu sais, on visite ça en période de canicule l'été quand l'eau est basse, là. On n'imagine pas que ça va remonter à ce point-là.
Mais c'est important de passer le message. Vous avez raison de soulever ça dans le sens où les gens, des fois, achètent des maisons ou même s'en font construire puis sont pas conscients que c'est en zone inondable. Mmh. Tu sais, les cartographies des zones inondables, là, c'est tout nouveau qu'on entend parler de ça. Moi, j'ai acheté ma maison il y a 6 ans, imaginez-vous. Il m'a même pas passé dans l'idée de vérifier ça. Puis bien des gens qui habitent chez eux depuis 10, 15, 20 ans, ils leur passaient pas dans l'idée de vérifier ça. Mais maintenant, c'est un souci qu'on doit avoir à l'esprit quand on choisit une maison. Il faut vérifier. Est-ce que c'est une zone inondable connue? Est-ce que c'est 0,20? Est-ce que c'est 0,100? Tu sais, il y a une gradation là-dedans aussi. Donc, quelle est ma tolérance au risque? Parce que l'approche qu'on prend en matière d'indemnisation au Québec va aller de plus en plus dans le sens de dire, oui, on comprend qu'il y a des gens qui sont pris en ce moment dans des maisons, ils se font inonder sans l'avoir vu venir, mais au fur et à mesure que le temps va avancer, de plus en plus, les gens qui s'installent dans des nouvelles maisons, je le disais, tu peux plus t'installer en zone inondable maintenant. Donc, si tu le fais, ben là, après ça, viens pas demander de l'argent, là. Tu sais, à un moment donné, il faut prendre des décisions conséquentes avec la réalité. Donc, c'est tout ça. Puis la responsabilité des municipalités. Puis tout ça ensemble participe du fait que je pense que graduellement, on va avoir de moins en moins de monde inondé à chaque année. Déjà, cette année, on aura peut-être moins qu'en 2017 parce que 500 bâtiments ont été détruits, démolis à la suite de 2017. Donc, 400 qui sont des résidences privées. D'autres sont des bâtiments commerciaux municipaux. Mais donc, déjà, ces infrastructures-là, normalement, ne sont plus inondées cette année. Fait que, au fil du temps aussi, on en aura de moins en moins. Fait que...
Mais hormis le 200 000 $ pour déménager concrètement des sinistrés, là, je vous dirais que ce que j'ai lu des éditoriaux qui ont été publiés après l'inondation de 1991, c'était le même ton que ce que vous utilisez. Les municipalités feront plus ça. On va avoir cartographié les zones inondables. Les gens vont devenir prudents. Il faut faire confiance, etc. J'ai bien peur qu'on n'apprenne pas beaucoup d'une inondation à l'autre, en autant que la mère nature nous laisse tranquille pendant 10 ans, on oublie.
Mais c'est un effort permanent de communication, de sensibilisation. 2017, là, ça a traumatisé énormément les gens au Québec. Ça, il faut se le dire, on a tiré beaucoup de leçons. Moi, j'ai fait le tour de plusieurs régions, je l'ai dit, j'ai vu un travail de préparation qui est énorme partout, à la fois les autorités municipales, mais les citoyens aussi. Ils savent ce qui s'en vient, ils se préparent. Beaucoup ont installé des digues, des sacs de sable, ont monté leurs effets personnels à un étage supérieur, ont installé leurs pompes à eau dans le sous-sol. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites en amont qui, je pense, vont contribuer à réduire l'impact global des inondations cette année. Évidemment, on peut pas tout éviter, là, mais ça, déjà, c'est un pas dans la bonne direction.
Vous avez demandé l'aide de l'armée beaucoup plus vite que d'habitude d'ailleurs. Et une des questions qui m'est arrivée par un auditeur, c'est pourquoi on n'appelle pas l'armée pour dynamiter les embâcles?
Dynamiter les embâcles.
Là, on l'appelle pour passer à MOP, mais pour dynamiter les embâcles, donc pour prévenir.
Oui, ben là, je vous avoue que sur le plan de géotechnique ou de l'ingénierie, là, dynamiter un embarras, que je pourrais pas répondre à savoir comment est-ce que ça se fait puis comment là. Mais par rapport aux embarras puis par rapport aux mesures qu'on prend, on a le véhicule amphibie, donc qu'on utilise quand c'est possible pour désamorcer ou désintégrer des embarras. On a plusieurs mesures qui sont prises un peu partout sur les cours d'eau, mais on peut pas malheureusement tout éviter, le dynamitage toute réserve. C'est ça, je suis pas certaine que ce serait possible, puis les conséquences environnementales et tout ça là. Donc, mais on fait tout ce qui est possible, et puis, mais on peut jamais tout prévoir. Ça, faut-il le répéter, mère nature, là, on n'a pas le contrôle, personne là-dessus malheureusement. Mais on peut faire des travaux de préparation. Et ce nouveau programme avec la mesure spécifique dont je vous parle, imaginez qu'à chaque année, si on a des gens qui se déplacent. Et qui se relocalise ailleurs, c'est toujours de moins en moins de monde, ça, qui va être inondé. Fait que,
3 000 maisons à 200 000, ça finit par faire 600 millions. Vous allez prendre ça où, cet argent-là?
Pardon, excusez, j'ai pas entendu le début de la question.
3 000 maisons à 200 000 chacune, ça fait 600 millions. Vous prenez ça où, cet argent-là?
Oui, bien, c'est ça. Il y a un coût à ça, mais je l'ai dit ce matin dans une autre entrevue. La sécurité publique et la sécurité civile en particulier a un coût au Québec. C'est vrai, il faut se le dire, la gestion des sinistres, entre autres des inondations, a un coût chaque année au Québec. Il peut être plus ou moins grand selon les années parce que c'est somme toute imprévisible. Mais oui, il y a un coût lié à ça. Par contre, une allocation de départ pour relocaliser quelqu'un ailleurs que dans une zone inondable, c'est quant à moi un investissement. Beaucoup plus qu'une dépense, parce que si on faisait comme ça a été fait jusqu'à aujourd'hui, puis de laisser les gens là à leur bon vouloir, puis bon, on indemnise année après année, ça finit par coûter beaucoup plus cher que le 200 000 ponctuel qui va permettre d'avoir la paix d'esprit. Au premier chef, comme je l'ai dit, c'est le bien-être des gens. Donc, ces gens-là vont avoir la paix d'esprit ailleurs et ce sera au mieux pour tout le monde. Puis je pense que ça va finir par nous coûter moins cher que si on donne de l'aide financière infinie comme on fait depuis toujours.
Merci beaucoup, Mme Guilbeault. Beau. J'espère que les bottines suivront les babines. Ce serait la première fois depuis 100 ans.
Moi, je vous dis que oui.
OK. Merci.
Merci. Bonne journée.
Il est 13h04. Rappelez-vous, hier, ce que je vous lisais, 1917. Déjà en 1917, oui. Sur le bord de la Chaudière, on disait faut déplacer les maisons.
Puis je comprends Mme Guilbeault de pas vouloir sortir la matraque contre les municipalités maintenant, mais quand les élus lui disent « on le fera plus, Mme Guilbeault », ils ont les deux pieds dans la flotte. C'est dans 6 mois, quand il va y avoir des promoteurs qui vont cogner à l'hôtel de ville pour dire « hey, on a pensé à ça, il y a du monde qui serait intéressé, on a fait... »
Puis là, regarde, sors-moi ça, cette petite zone-là de la zone inondable. Voyons donc, tu sais bien que l'eau ne montera plus jamais. Là, c'est arrivé une fois, ça arrivera pas 20 ans.
0-100 ans, hein, on est correct.
Voyons donc, sors-moi ça de là. Que c'est ça? Ou encore, ils vont accepter un quartier résidentiel qui n'est pas dans une zone inondable. Puis tout à coup, parce qu'on a construit un quartier résidentiel et que le sol n'éponge plus l'eau qui l'épongeait autrefois, elle devient inondable.
Oui. Faudrait pouvoir mettre à jour la carte de zone inondable quand il y a des projets projetés. Quel impact ça peut avoir sur notre carte actuelle si on développe tel secteur? Là, tu fais des hypothèses. Mais là, on vient complexifier un principe qui est déjà assez complexe. Pour le dynamitage d'embarras, je suis tombé sur un article qui parlait de la rivière Montmorency à l'hiver 57. Ouais. On remonte, là. L'armée avait dynamité l'embâcle sur la rivière Montmorency. On avait évacué les résidences autour dans ce secteur-là de Beauport, rue des Trois-Sceaux. Et ça avait provoqué un courant quand il y avait dynamité. Mmh. Et il y avait des chalets qui avaient été arrachés.
Ah oui!
Fait qu'eux voulaient bien faire en prévenant, mais ils avaient causé probablement plus de dommages que si l'embâcle avait passé comme d'habitude.
Parce que ça arrivait aussi qu'à chaque automne, des municipalités draguent le fond de leur rivière pour permettre à l'eau de s'écouler plus facilement. Mm-hmm. On rentrait une pépine, littéralement, oui. La rivière, puis on ramassait des roches, puis on les remontait
c'est
sur
ça.
Les rives.
On allait chercher un pied ou deux de plus là, dans le fond.
Et ça a été interdit par le ministère de l'Environnement pour protéger les menées. Enfin, j'exagère. Protéger quelques poissons.
Okay. Les barrayés.
Le résultat, que ça a donné beaucoup d'inondations par la suite.
Oui.
À un moment donné, là, est-ce qu'on peut accepter que l'être humain fait partie de l'environnement? Il est 13h06.